je ne sais pas si pour le titre, je ne suis pas en situation de plagiat. Parce que France m'a dit qu'elle avait déjà...
Tu
n'as pas eu le temps de vérifier.
Moi, je pense que c'est que vous avez dit que c'était quand même la culture.
Ah, il y a deux phrases que j'ajoute. La deuxième chose en guise de préambule, c'est que... Bon, en fait, les choses dont je vais parler aujourd'hui, c'est lié aussi, en partie, à l'origine du séminaire, il y a plusieurs années. J'ai publié certaines choses, j'ai participé à quelques colloques sur les questions, j'en ai discuté avec certains d'entre vous. J'ai eu l'occasion notamment d'échanger avec, avec Luc Bonneville, qui est ici présent, là, assez longuement, à de nombreuses reprises, y compris autour d'un colloque auquel on a participé au mois de juillet dernier. Avec Renaud Carbas aussi, qui est présent, avec lequel j'ai travaillé. Mais si vous êtes abonné à la liste du séminaire, vous avez reçu le texte qu'on avait publié. Je pense que par la même occasion, d'ailleurs, vous avez reçu aussi le texte de Luc Bonneville, parce qu'il était dans le même... dans le même PDF. Bon, alors... j'ai décidé de faire un PowerPoint, mais comme le PowerPoint est une technologie médiatique qui souvent me pose problème, la seule façon que j'ai de m'en sortir, à part quand je donne des cours au bac, disons, parce que là j'essaye d'être plus... d'en mettre moins, de façon à ce que... le PowerPoint ne participe pas à un certain réductionnisme de la pensée. Il y en a 30 diapositives. Donc je pense que j'ai à peu près droit. Ouais, c'est ça. J'ai à peu près droit à une minute par PowerPoint, puisque j'ai déjà pris du temps pour l'introduction de l'introduction. Et puis la dernière chose. Ouais, mais alors, il risque de remonter d'un coup. Hein. Là, je sais pas, tu peux essayer, mais c'est pas. Bah, ça y est, comme ça, j'ai oublié l'autre élément que je voulais ajouter, mais bon. Ah oui, oui. Alors, vous avez, de toute façon, vous avez un certain nombre d'éléments dans la présentation qui sont aussi dans le texte, dans le premier texte que j'ai envoyé. Et puis, par ailleurs, il y a d'autres éléments qui ont été rajoutés, à commencer par cette citation de Marcel Rioux, puisque, en fait, le premier élément sur lequel je vais revenir, c'est sur... je vais citer Rioux, puis j'y reviens un instant. On pourrait penser que l'évolution des sciences n'obéit qu'à une logique interne, qu'une fois l'objet circonscrit, les recherches progressent au rythme de l'affinement des méthodes et des techniques. C'est ainsi, semble-t-il, qu'on pourrait écrire une histoire de la science, de n'importe quelle science. On postulerait ainsi que l'objet ne change pas et que seuls changent les outils intellectuels et techniques de l'observateur. Donc, première partie. Deuxième partie, or, on sait qu'il n'en va pas ainsi dans la réalité. Même dans le cas des sciences de la nature, l'objet des recherches change au fur et à mesure que la recherche progresse. D'autre part, les sociétés, pour des raisons stratégiques, idéologiques ou culturelles, freinent ou accélèrent tel ou tel type de recherche. Dans le cas des sciences de l'homme, les relations entre l'observateur et son objet d'étude sont encore plus complexes puisque l'homme est en même temps l'objet et le sujet de l'histoire. Alors, je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, j'essaye, je pense qu'on peut essayer de combiner les deux positions. D'une part, la production de théories de concepts repose en partie sur des pratiques spécifiques, des habitudes, si on prend Bourdieu, des chercheurs. On n'arrête pas, en tant que prof, de mettre en avant les principes de cohérence et de rigueur, notamment, dans nos travaux. Mais d'un autre côté, donc, c'est un peu, on pourrait dire, la logique interne, mais d'un autre côté, en effet... tous nos travaux s'inscrivent dans un contexte historique, social, économique, politique, idéologique spécifique. Ça va rester un peu en toile de fond de mon intervention, puisque, en fait, je vais revenir plus spécifiquement sur l'histoire des idées, mais ce qui m'intéresse derrière aussi, mais qui n'est pas explicité ici, c'est aussi tout le contexte socio-historique, notamment du 21e et du début du 21e siècle. Autre élément d'introduction, donc, la double mission de l'université, contribuer à former des esprits libres et autonomes d'un côté. Esprit libre et autonome, en fait, c'est une citation de Michel Freytag, sur lequel je reviendrai en conclusion. Et former des travailleurs susceptibles de participer au système de production caractéristique d'une société. Mais c'est vrai qu'en fait, à entendre beaucoup de débats, beaucoup de réunions qui ont lieu au sein de notre institution et d'autres institutions universitaires également, on a de temps en temps, de plus en plus, enfin, de mon point de vue, de plus en plus, tendance à considérer que la mission de l'université se résumerait plus à la deuxième considération plutôt qu'à la première. En tout cas, il me semble y avoir une tension entre ces deux objectifs dans un contexte, alors je ne développe pas, mais s'il y a des questions, des gens qui ne seraient pas d'accord, peuvent intervenir, d'hégémonie croissante du capitalisme globalisé et financiarisé. On pourrait dire que, en fait, les secteurs qui échappent à l'industrialisation et à la marchandisation sont de moins en moins importants, même s'il y a aussi des pratiques de résistance pour contrer cette tendance. Mais j'allais dire, même la Lune, si on retourne sur la Lune, c'est bien un jour, c'est parce qu'on pense qu'on pourra justement exploiter notre satellite. Voilà pour les éléments d'introduction. Alors, c'est quoi une démarche critique? Je l'avais déjà abordé en quelques minutes en septembre dernier. Je vais essayer de le faire un peu plus systématiquement. J'ai regroupé ça en un certain nombre de points. Le premier point, en fait, je pars d'Étienne Balibar, qui dit « Le droit de formuler des propositions négatives revendique le droit en tant que chercheur de formuler des propositions négatives parce qu'on ne peut jamais entrer dans l'avenir sans faire une critique minutieuse du passé. » Et il ajoute, en fait, en citant Gramsci, en fait, qu'il faut en permanence lutter contre le découragement et l'épuisement des perspectives en mettant en œuvre le pessimisme de l'intelligence. Et j'en tire comme premier élément essentiel de toute démarche critique, c'est que celle-ci vise la critique de nos systèmes, notamment socio-économiques et sociopolitiques. On le retrouve à l'école de Francfort, en économie politique, en cultural studies, en études féministes. Évidemment, après, on va trouver des différences sur les accents, les objets de recherche, mais on retrouve, en tout cas, on va dire, dans les travaux fondateurs, on va dire, entre guillemets fondateurs, on retrouve ces éléments-là. Anne-Marie Gingras propose d'opposer justement cette recherche critique qui regroupe ces recherches-là, d'opposer ça à la recherche qu'elle appelle libérale, la recherche libérale qui reposerait sur notamment les approches behavioristes, systémiques, fonctionnalistes, où là, en fait, plus ou moins implicitement, généralement c'est à peu près toujours implicitement, on postule donc la pérennité et la légitimité des systèmes, notamment donc systèmes socio-économiques et sociopolitiques. J'aurais dû dire socio-économiques, sociopolitiques, puisque l'économie et le politique ne se développent jamais en dehors du social. Alors, j'en viens à une autre interrogation, en fait, à partir de ces éléments-là. Est-ce qu'il n'y a pas de recherche, est-ce qu'on peut parler de recherche neutre, est-ce qu'on peut parler de recherche apolitique? Mais d'un autre côté, si on parle de recherche neutre, par exemple, qui serait une recherche qui serait uniquement basée sur les observations, sur l'empirisme, est-ce que ça ne favorise pas implicitement les pouvoirs en place? Alors on peut répondre en mobilisant Horkheimer et Stuart Hall, en fait, sur la question de l'importance de la recherche engagée. Et il me semble que ça nous amène donc à un deuxième élément, plus spécifique peut-être, sur la question de c'est quoi une démarche critique. Je pense qu'une démarche critique, c'est une démarche qui mobilise des notions, telles que les notions de pouvoir, de domination, d'exploitation, d'inégalité, de rapport de force, conflit, résistance, aliénation, émancipation. Je dirais, en fait, même peut-être pour aller plus vite, qu'on pourrait reprendre, en fait, la question de la dialectique permanente, aliénation, émancipation, qu'on pourrait retrouver là bon nombre de travaux, en fait, qui portent sur... qui adoptent une démarche critique. Mais, ajoutons un autre élément, en fait, de la démarche critique, en fait, c'est l'idée qu'on vise aussi un projet de transformation positive de la société. Quand on aborde une démarche critique, comme le dit Jean-Marc Fontan, la pertinence de la praxis. Et là-dessus, je reviens à Rioux. La praxis, c'est l'action par laquelle l'homme se fait en faisant le monde matériel. La praxis change la conscience de soi en changeant les objets que l'homme s'approprie. Pour Marx, la liberté humaine se crée dans cette praxis et elle apparaît graduellement chez l'homme au fur et à mesure qu'il passe d'objet de l'histoire à sujet de l'histoire. L'essence de l'homme n'est pas posée au début de l'histoire, elle se réalise à travers l'histoire. En complément, donc, on rajoute un autre élément à notre édification de ce qu'est une démarche critique, c'est qu'une démarche critique authentique est aussi autocritique. Parce qu'elle permet de revenir, de mettre en examen, comme dit Jean-William Lapierre, en fait, ses propres postulats et choix idéologiques, afin de se prémunir contre l'abus dogmatique et les excès polémiques. Un peu plus loin dans son texte, il dit que finalement, on est toujours dans une démarche critique, on est toujours quelque part sur le fait d'une chaîne de montagnes avec d'un côté un précipice qui est de reverser en permanence dans l'accumulation de données de type empirique, puis de l'autre d'avoir des excès de dogmatisme, ce qu'il appelle le dogmatisme, les excès polémiques. L'expertise d'un côté, hyper spécialisée, quelque chose qui est très très présent dans nos universités maintenant, de plus en plus, et puis basculer dans le dogmatisme de l'autre. Et que, en fait, une démarche critique est toujours... risque toujours de basculer dans un de ces deux travers, selon Jean-William Lapierre. Pour poursuivre, en fait, on pourrait s'interroger tout de même, et ça reviendrait sur est-ce qu'il y a une recherche apolitique ? Est-ce que ça peut exister, la recherche apolitique ? Parce que, est-ce que choisir un objet formule un questionnement, une problématique ? Est-ce que c'est pas déjà faire un choix en termes de valeur ? Alors, ça rejoint évidemment la question de fait et valeur, autour de Weber, la neutralité axiologique. Et je ne suis pas sûr que même au sein des chercheurs critiques, en fait, il y ait unanimité de positionnement par rapport à ça. Je vais y revenir un peu tout à l'heure. Mais si je reprends, en fait, la façon dont Weber est relu par Marcel Rioux, je trouve ça très intéressant. D'un côté, donc Rioux à partir de Weber, qui dit « D'un côté, le domaine de l'objectivité, celui des déterminismes sociaux qui gouvernent le monde, et de l'autre, la subjectivité des valeurs et de l'irrationnel. » Dans ce sens-là aussi, Weber demande qu'on sépare fait et valeur, mais il se rend bien compte, d'autre part, que pour avoir une chance de comprendre quelque chose au comportement des individus, il est obligé de tenir compte de leurs valeurs, c'est-à-dire du sens de leurs actions, de leurs intentions et de leurs fins. Et puis, un autre auteur que je trouve intéressant par rapport à cette question-là, sur est-ce que la neutralité axiologique, ça existe ou est-ce que ça n'existe pas ? Moi-même, je m'interroge, mais j'aurais plutôt tendance à répondre que ça n'existe pas, à partir du moment où j'estime même que poser une problématique, c'est déjà faire des choix. J'allais dire faire des choix souvent non explicités, en fait, en termes justement de valeurs. C'est ce qui distingue France Aubin, dit bien d'ailleurs que c'est ce qui distingue souvent l'intellectuel qui va prendre position explicitement, alors que le chercheur, souvent, son positionnement reste relativement implicite. Quack Mills, donc, les techniciens de l'empirisme abstrait ont choisi la recherche sociale comme une carrière. Ils se sont dirigés jeunes vers une spécialisation étroite. Ça rejoint la question de l'hyperspécialisation, qui, je pense, est à la fois nécessaire dans une certaine mesure, mais est un vrai problème par ailleurs. Et ils font montre d'indifférence et de mépris pour la philosophie sociale, qui pour eux veut dire écrire des livres à partir d'autres livres ou simplement spéculer. En fait, les théoriciens seraient des gens qui spéculent, qui pèlent les nuages éventuellement. Je vais y revenir parce que je vais parler après de l'école de Francfort. En écoutant leur conversation, en essayant de juger les qualités de leur curiosité, on se trouve devant une limitation d'esprit mortel. Alors, la question qu'on peut se poser, dans un monde peut-être idéal, la démarche critique, à mon avis, doit reposer à la fois sur une conceptualisation forte, et puis aussi sur la recherche empirique. Ça rejoint ce que disait Michel tout à l'heure, à partir d'une démarche qui est tantôt inductive, tantôt déductive. Alors évidemment, selon les moments dans sa carrière... C'est exactement pareil quand on fait une thèse de doctorat. On peut avoir une démarche plutôt inductive, plutôt déductive, mais sur, par exemple, 4-5 ans d'un parcours en doctorat, on peut, selon les mois, les années, privilégier plutôt une forme de raisonnement. Bon, c'est une position qui me semble souhaitable, mais est-ce que c'est une position si fréquente que ça ? Évidemment, l'une des réponses que je ferais, c'est que intuitivement... Pas tout à fait intuitivement uniquement, parce qu'avec Renaud, on a travaillé sur des corpus comme celui du Canadian Journal et de la revue Communication. Mais on a plutôt l'impression que finalement, on est plutôt dans le cadre de démarches qui sont plus inductives, en fait, exploratoires en tout cas. L'induction étant liée à l'exploration, alors que la déduction est liée à plutôt la formation d'hypothèses fortes. Alors, on ne peut en effet se limiter, à mon avis, à la réflexion abstraite d'un côté ou à une accumulation d'observations empiriques. On verra tout à l'heure que la troisième génération de l'école de Francfort, sous la plume d'Olivier Warhol, conteste justement que la première génération de l'école de Francfort porte uniquement une réflexion d'ordre abstrait. J'y reviendrai en conclusion, si j'ai le temps. Derniers éléments, je pense, sur la démarche critique, c'est, à mon avis, l'importance... Donc de lier la raison et le doute. Là-dessus, j'aime bien Giddens, qui dit « Si la sphère de la raison règne sans partage, aucune connaissance ne peut s'appuyer sur des fondements incontestables. » En fait, Giddens dit aussi que si, après tout, on met la raison, on se débarrasse de la raison, autant se débarrasser aussi des institutions universitaires. Si la sphère de la raison donc règne sans partage, aucune connaissance ne peut s'appuyer sur des fondements incontestables, la modernité s'avère énigmatique en son cœur même, et on ne voit pas comment dépasser cette énigme. Pratique de la raison et doutes sont finalement donc absolument liés les uns avec les autres. Bien que ces créateurs, à savoir les créateurs de la modernité, aient cherché à remplacer les dogmes préétablis par des certitudes, la modernité implique dans les faits l'institutionnalisation du doute. D'où l'importance donc aussi, et je terminerai parmi les éléments de réflexion sur ce qu'est une démarche critique, hein, d'où l'importance de la prise en compte des possibles biais de la recherche, hein, origine du chercheur, contexte paradigmatique, idéologique. Et donc, là-dessus, Bourdieu me semble être un auteur intéressant sur la question de la pratique de la réflexivité. Hein. Lui, il parle d'auto-analyse ou d'auto-socio-analyse. Un travail qui est indispensable pour le chercheur, car c'est en prenant acte de sa position et de son évolution dans le temps qu'on peut espérer maîtriser les effets qu'elle pourrait avoir sur ses prises de position scientifiques. Alors, après avoir débuté le terrain sur ce qu'est une démarche critique, venons-en aux études en communication. Je vais revenir très très brièvement sur quelques enseignements de l'école de Francfort. En fait, la première génération. En conclusion, j'aborderai quelques éléments sur la troisième génération. La première génération, en fait, c'est essentiellement Adorno qui m'intéresse. La troisième génération, c'est Voirol. Donc, on voit bien, dans le cadre de l'école de Francfort, le premier élément important, c'est que les travaux vont bien au-delà de l'industrie culturelle. D'ailleurs, ce que dit Voirol, c'est que les critiques de la première génération de l'école de Francfort sont souvent des auteurs qui n'ont jamais rien lu en dehors du chapitre ou des écrits sur l'industrie culturelle, mais qu'on ne peut pas comprendre sans lire l'ensemble de la production, notamment d'Adorno, qui est souvent considéré comme étant de loin le penseur le plus pertinent, le plus intéressant, plus qu'Horkheimer en tout cas. Donc, vous avez une critique radicale des moyens de communication modernes autour de la notion d'industrie culturelle. Hein. Adorno, de cet art, l'industrie culturelle se distingue par principe. Dans toutes ses branches, on confectionne plus ou moins selon un plan des produits qui sont étudiés pour la consommation des masses et qui déterminent par eux-mêmes, dans une large mesure, cette consommation. L'idée que le mode de production de l'industrie culturelle s'effectue sur le même modèle que le procès de production capitaliste en général. Idée importante, en fait, qui explique la dimension anéante, justement, de l'industrie culturelle. Mais ce qui est intéressant par rapport à ça, et la relecture de Voirol est... Donc, en fait, si j'ai pas le temps de conclure, voilà. La relecture de Voirol est intéressante parce que, justement, lui-même dit que les auteurs qui disent, par exemple, que les travaux sur l'industrie culturelle d'Adorno et d'Horkheimer postulent la toute-puissance des médias, c'est que ces gens-là n'ont rien compris à Adorno et Horkheimer, puisque, en fait, Adorno et Horkheimer n'ont pas une théorie qui est médiacentrique. Ils ont une théorie qui intègre les médias dans leur analyse de la société, mais, en fait, le rapport que les récepteurs ont avec les médias, avec l'industrie culturelle, ces rapports de faiblesse par rapport aux médias sont liés aux structures sociales existantes et pas aux médias eux-mêmes en partie. Alors, bon, je passe très très vite hein, sur l'opposition qu'ils font entre art et industrie culturelle. Art, montrer le beau, le juste, hein, c'est la dialectique avec d'un côté la raison positive et émancipatrice, de l'autre côté l'industrie culturelle. J'aurais dû mettre industrie culturelle au singulier, d'ailleurs c'est une erreur. qui promeut l'efficacité, la rationalisation, donc qui se trouve justement au cœur de la raison instrumentale, qui est la raison asservissante. Et en fait, l'industrie culturelle joue un triple rôle. Écoutez, vous pouvez le lire, donc je ne vais pas le reprendre. C'est bien connu, je pourrais vous envoyer le PowerPoint sur la liste. Alors là, il y a une erreur, beau, ça s'écrit B-E-A-U-D, je pense. Mais je trouve qu'il résume bien justement cette opposition entre chercheurs fonctionnalistes et chercheurs critiques, en tout cas dans les années 40 et 50, hein, au fonctionnalisme qui renvoie les médias à la satisfaction de besoins fondamentaux, qu'ils soient ceux du système ou de l'individu. Les membres de l'école de Francfort opposent une critique qui fait de la culture de masse un moyen de détourner l'individu de ses conditions réelles d'existence vers la satisfaction de prétendus besoins créés par elle sur la base d'un mensonge, l'image affirmative d'une société où le bonheur n'est pas promesse pour le futur mais état actuel. Le happy end est la morale de toute la culture de masse, morale dictée par les intérêts capitalistes et qui se substitue à la subjectivité de l'artiste. Autre élément important, c'est que Adorno et Horkheimer reconnaissent tout à fait que leur théorie peut s'effondrer ou peut être remise en cause en fonction justement de l'histoire, puisque toute pensée est liée au contexte socio-historique dans lequel elle se développe. Ce qui me semble aussi intéressant, contrairement à d'autres approches, hein, je pense par exemple à l'approche cybernétique qui a une volonté d'être beaucoup plus ahistorique en fait, hein, comme beaucoup d'autres approches dans les études en communication, ce qui rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure à propos de l'intérêt de l'approche historique et qui pourtant est très peu développée dans notre discipline. Bon, il y a une dimension épistémologique aussi, évidemment, qui est importante, dimension épistémologique que l'on retrouve autour de, aussi bien l'interrogation de son rapport à, son champ de recherche, soi-même, quand on fait un travail, rapport à la société, hein, c'est la fameuse opposition entre Adorno et Lazarsfeld, hein, Lazarsfeld qui invite Adorno à travailler au Princeton Radio Research, lorsqu'il arrive aux États-Unis, à la fin des années 30, Adorno et Lazarsfeld qui se connaissaient hein, auparavant, avant que Lazarsfeld quitte l'Autriche, pour les États-Unis. C'est Adorno qui est traduit par Armand et Michel Matlard. Les directives émanant de la Fondation Rockefeller stipulaient expressément que les recherches devaient être réalisées dans les limites. Donc on ne met pas en cause, en fait, le cadre problématisant de la recherche lui-même, du système radiophonique commercial en vigueur aux États-Unis. Cela impliquait donc que le système lui-même, hein, le mot système n'est pas innocent, évidemment, ses conséquences culturelles et sociologiques et ses présupposés socio-économiques ne devaient pas faire l'objet de l'analyse. J'étais préoccupé par un problème méthodologique de base, dans la mesure où j'entendais le mot méthode davantage dans son sens européen d'épistémologie que dans le sens où l'entendent les Américains pour qui la méthodologie signifie de fait les techniques pratiques de recherche. Et si je reprends Beau sur cette question-là, en fait, lui, il estime que d'un côté, vous avez la science normale, celle qui refuse de s'interroger sur elle-même, sur sa propre histoire, qui s'isole dans ses pratiques et qui ne remet jamais en cause ce qui l'a fait agir dans telle ou telle direction. Et que vous avez donc une science critique par rapport à elle-même et par rapport à la société, afin de produire de la vérité, laquelle inclut la réflexion sur les conditions sociales de la production théorique. Ce qui rejoindrait d'ailleurs aussi la question de l'autosocio-analyse de Bourdieu dont je parlais tout à l'heure. Bon, on pourrait dire aussi que l'un des autres mérites des penseurs de l'école de Francfort, c'est la déconstruction de la prétendue naturalité des besoins et de la demande sociale dans le secteur de la communication et au-delà. Et que donc, à partir de là, cette déconstruction, l'opération de déconstruction, ne peut exister qu'à partir justement où, dans la démarche de recherche, la réflexion tient un rôle central. C'est aussi hein, la fameuse opposition. Même si je suis pour le fait de lier les démarches inductives et déductives, la fameuse opposition entre, en fait, le monde se résume essentiellement à des apparences qui sont directement observables, postulat plus ou moins implicite, fonctionnalisme, et puis la pensée critique, en tout cas à l'époque de l'école de Francfort, où la démarche de réflexion est une démarche abstraite de réflexion est une composante importante. Alors toutefois, évidemment, il y a eu des critiques hein, bon, par rapport à cette théorie critique fondatrice. J'ai oublié de dire quand même que avant, on dit souvent que les études en communication, c'est l'école de Francfort qui introduit le développement de la pensée critique hein, sur les études en communication. Alors c'est pas tout à fait vrai si on lit un livre d'Yves Delahaye, mais qui est uniquement en anglais, où Yves Delahaye revient justement sur Marx et les questions de communication. Bon, alors je reviens donc à grosso modo, en fait, il y a trois types de critiques qui sont effectuées auprès de la première génération de l'école de Francfort. L'absence de résistance de la part des récepteurs, et on voit à partir de là, fin des années 50, hein, l'école de Birmingham, première génération des cultural studies, quand il y a une certaine unité, on va dire encore, donc il y a un éclatement au fil des décennies. Travaux sur, donc, notamment milieu ouvrier en Grande-Bretagne. L'absence de prise en compte des phénomènes de domination des rapports de genre et interculturels, avec tous les travaux qui vont se développer, les perspectives féministes notamment, qui portent sur la race, entre guillemets. Et puis, en fait, troisième critique, une généralisation abusive concernant le système de l'industrie culturelle qui s'avère plus diversifié. Et là, c'est plutôt des travaux en économie politique. Je passe vite parce que c'est des choses que la plupart d'entre vous doivent bien connaître. Mais est-ce que les trois failles qui sont souvent mises en avant à propos de la première génération de l'école de Francfort, est-ce que c'est parce que il n'y aurait pas assez d'observations empiriques, car vous verrez que Voirol dit que de son point de vue, mais il défend Adorno notamment, ça n'est plus le cas. Mais on va aller voir du côté des travaux en économie et politique de la communication, voir un peu justement ce qu'il en est de l'imbrication entre théorie et puis empirisme, les travaux sur le terrain. Bon, je me situe plutôt mes travaux dans le cadre de l'économie politique de la communication, donc c'est pour ça que j'ai choisi d'aborder la question de l'économie politique de la communication, mais ça serait très intéressant aussi de faire un parallèle avec les cultural studies, par exemple. Alors vous avez continuité et rupture avec la pensée sur l'industrie culturelle, d'une part continuité parce qu'il y a volonté de porter un regard critique global sur les sociétés et les phénomènes communicationnels qui s'y déroulent, en mettant l'accent sur le conflit et forme de domination. Traduction de Moscou en 1996, son livre justement un peu emblématique. Pour lui, l'économie politique et la communication, c'est l'étude des relations sociales, notamment aux relations de pouvoir, hein, qui constituent mutuellement la production, distribution et consommation des ressources. Important, je pense, et là-dessus d'ailleurs ça rejoint ce que dit aussi Stuart Hall, c'est l'importance de considérer, ce qui n'a pas toujours été fait, à mon sens, en économie politique et communication, de considérer à la fois les étapes de production, de distribution, de consommation, et de ne pas considérer ça uniquement de façon linéaire, mais comme dit Stuart Hall, de façon en fait circulaire également. La praxis fait référence, et autre élément que rajoute Moscou sur le PC, la praxis fait référence à l'activité humaine, et plus spécifiquement à l'activité libre et créative par laquelle les personnes produisent et changent le monde et eux-mêmes, hein, ce qui renvoie d'ailleurs à ce que disait Ryu tout à l'heure. Troisième élément important, Golding et Murdoch, sur la question de l'importance de tenir compte des questions de justice, d'équité et de bien public. Là aussi, très souvent dans les travaux en EPC, c'est pas forcément explicité, parce qu'on trouve derrière l'idée des questions de justice, d'équité et de bien public, la notion d'une dimension normative, plus ou moins explicite. Mais alors, comme c'est pas explicite, ça rejoint le questionnement qui est le mien. Est-ce qu'on verrait une différence entre une démarche de chercheur et puis une démarche d'intellectuel ? La démarche de l'intellectuel étant explicitement située sur un plan à la fois idéologique, on va dire, plutôt, alors que la démarche du chercheur ne serait même pas forcément explicitée dans un cadre paradigmatique. J'ai pas le temps de développer, mais on pourrait évidemment établir des liens entre la notion de paradigme et la notion d'idéologie par ailleurs. Même si c'est pas le mettre dans les mêmes cadres exactement que ça se développe. Vous avez donc en économie politique de la communication une critique qui est indissociablement d'ordre économique et idéologique. On peut reprendre le livre fondateur sur les industries culturelles en langue française de 78, hein, Huet, Miège et compagnie. Le principal rôle idéologique de la culture marchande consiste à assurer la valorisation du modèle économique capitaliste. Bien que j'ai l'impression, également, sans avoir travaillé systématiquement, mais intégrant mes travaux dans ce cadre-là, bien que j'ai l'impression que la critique d'ordre économique a eu plutôt tendance à prendre le pas sur la critique d'ordre idéologique, qui éventuellement aurait été plus laissée aux cultural studies. Mais elle était bien présente, en tout cas, à la fin des années 70, au début des années 80. Regardez-le à partir de ce que dit Yves Delahaye. Simplement, ce qui m'interroge, en fait, c'est qu'à partir... Est-ce qu'il n'y a pas un virage? Mais dans ce cas-là, vous voyez, on est dans les années 80. Est-ce que ce virage, s'il existe, est-ce qu'il est lié ou est-ce qu'il n'est pas lié? Et à mon avis, il est éventuellement lié au contexte, justement, socio-historique dans lequel on est, ce qu'on appelle aussi le tournant néolibéral, c'est que finalement, les travaux francophones, en tout cas les travaux francophones sur les industries culturelles, vont devenir extrêmement... avoir une dimension descriptive et analytique forte. On sent bien là la nécessité d'avoir des données et pas seulement d'avoir un raisonnement plus conceptuel, plus abstrait. Gaëtan Tremblay dit d'ailleurs « De philosophico-éthique, la perspective critique est devenue socio-économique. » Et je pense même, mais je n'ai pas retrouvé le mot, il me semble même qu'il ajoute que la critique devient plus froide, il me semble.
Oui, un froid constat sociologique.
Un froid constat sociologique. Merci Gaëtan. Alors, il y a une critique de la critique aussi, hein, puisque l'un des éléments importants, je ne vais pas tous les aborder, mais l'un des éléments importants des travaux, hein, notamment sur la théorie de ce qui a été appelé la théorie des industries culturelles, c'est justement l'idée qu'il n'y a pas de disparition des petites entreprises dans le secteur, contrairement à une certaine vulgate marxiste qui estimait qu'on allait vers la création uniquement de quelques monopoles dans le secteur de la communication et dans d'autres secteurs. Et puis qu'au sein de l'école de Francfort, première génération, on parlait de système et d'unicité du système, alors que là, il y a plutôt la mise en évidence de la diversité des processus à l'œuvre. Les médias, cinéma, télévision, radio, etc., ont tous, en fait, sont dans le cadre de processus d'industrialisation et de marchandisation, mais qui prennent des formes relativement variées. Donc, on ne peut pas estimer qu'il y a un système. D'ailleurs, il y a un système, mais le système présente différents formats, et d'où le fait, d'ailleurs, qu'on passe de l'industrie culturelle au singulier à l'industrie culturelle au pluriel. On a donc le développement de la théorie des industries culturelles, et en fait, c'est une théorie qu'on peut appeler à moyenne portée, alors que la théorie de l'école de Francfort est une théorie qui, elle, se veut une théorie générale, puisque les médias n'en sont qu'une composante. On peut relier la théorie des industries culturelles à d'autres approches théoriques, en économie, par exemple, l'école de la régulation, mais en fait, seuls quelques auteurs font des liens explicites, par exemple, entre la théorie des industries culturelles et l'école de la régulation. Donc c'est plutôt une théorie qui se développe au sein de l'économie politique de la communication, mais c'est plutôt une théorie qui se développe en lien avec d'autres théories, sans avoir forcément une théorie globalisante au-dessus, ce que j'appelle les théories à longue portée. Et il y a une place importante qui est accordée aux travaux à dimension empirique. Là, je vais faire allusion quelques instants à justement des activités de recherche qu'on mène avec Gaëtan, avec Chantal et Renaud, de gauche à droite, ici présents. Travaux importants à dimension empirique à partir de la notion de concentration. Alors Moscou rappelle bien que la notion de concentration est une notion tout à fait fondamentale en économie politique de la communication, mais que d'un autre côté, il nous invite en 1996 à repenser l'économie politique. Ça implique de reconnaître que quoi qu'importante, la taille des entreprises et la concentration ne sont que des points de départ pour comprendre la transformation de l'industrie des communications. La restructuration globale permet d'adopter de nombreuses stratégies. On a encore la dimension ici d'une certaine diversité des processus à l'œuvre. La restructuration globale permet d'adopter de nombreuses stratégies afin d'étendre son contrôle de la forme du conglomérat aux alternatives plus flexibles. Et bien, je rajoute, c'était deux points de départ de la recherche qu'on mène financée par le CRSH. De la prise de contrôle financier à la production de la culture et celle de l'information, interviennent toute une série de médiations qu'on serait a priori passer sous silence. Donc, pas d'approche mécanique. Pas d'approche non plus purement économiciste, mais il faut étudier ce qui se passe, y compris à l'intérieur des organisations, à partir à la fois des décisions, des grandes décisions qui sont prises au sommet, jusqu'aux conditions de travail des employés, notamment ce qui nous concerne dans le cadre de cette recherche, des journalistes. Donc le travail de collecte des données devient important. Bon, toutefois, il reste que il n'y a pas unité de point de vue. Alors je vais essayer d'illustrer très rapidement ce manque d'unité de point de vue autour, en fait, finalement, de certains questionnements sur démarches critiques et démarches militantes. Pour ce faire, je vais revenir, mais très très brièvement, des quelques années en arrière, enfin, aux années 80, les travaux sur la commission dite McBride, la commission internationale d'études sur la situation et les perspectives d'évolution de la communication dans le monde. C'est en fait le dossier qui a été le plus chaud dans l'histoire de l'UNESCO, qui a provoqué le départ en 84 et 85 de plusieurs pays, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ça a donné lieu à bien des travaux universitaires avant et après. Par exemple, ici à Montréal, je pense aux travaux de Marc Raboy, a fourni aussi une légitimation pour tout un ensemble de luttes de composantes de la société civile, cherchant à œuvrer en faveur d'une démocratisation de la communication. Donc on voit bien ici une certaine articulation entre démarche critique et puis démarche militante. Mais alors ce qui m'intéressait, c'est de regarder un peu ce qui s'était passé à partir des forums sociaux mondiaux début des années 2000, en fait, ne traitent pas la communication de façon très développée. C'est en 2003 que le thème apparaît plus important, traité de façon importante. Et à la suite, justement, de la Réunion à Porto Alegre, en France, est créé un observatoire français sur les médias. En fait, ça devait être un observatoire mondial sur les médias, et puis il a été créé dans quelques pays, je pense qu'il a été créé au Venezuela, par exemple, et il a été créé en France. Sauf qu'en fait, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher pour une raison essentielle, c'est qu'on y retrouve à la fois, en fait, alors, si vous regardez le discours de l'OFM sur le site web, je vais quand même lire la citation. « La puissance des médias est dorénavant sans contrepoids et tend à devenir franchement alarmante pour la démocratie quand elle s'accompagne, comme c'est actuellement le cas, d'une concentration sans précédent. » Donc on retrouve un discours ici qui est finalement plus proche de celui de la pensée francfortiste que de la pensée en EPC. Déjà, l'homogénéisation croissante du mode de traitement de l'information et de son contenu, les médias deviennent de plus en plus interchangeables, le pluralisme intellectuel et culturel, pourtant indispensable au débat citoyen, est confiné aux marges que le système veut bien lui concéder. La société tout entière passe ainsi sous la coupe d'un pouvoir, à la fois médiatique, économique et politique, qui ne tolère de critique que de lui-même. Donc, pensée forte, qui rejoint l'école de Francfort. Et alors, à mon point de vue, c'est que ça échoue complètement, l'OFM, et ça échoue complètement justement parce qu'on y retrouve des gens qui ont des positions très très hétérogènes. Vous avez d'un côté des représentants de milieux professionnels, à commencer par des journalistes, autour de la nébuleuse surtout du monde diplomatique, avec deux de ces figures du monde diplomatique, figures historiques, Ignacio Ramonet et Serge Halimi. Ce qui est très intéressant de noter ici, c'est que Ignacio Ramonet et Serge Halimi sont des universitaires, ils ont tous les deux un doctorat. Comment ? Oui, mais Noam Chomsky n'est pas dans la direction du monde diplomatique, puisque Ramonet, à l'époque, est directeur du monde diplomatique. Serge Halimi est maintenant directeur du monde diplomatique. Vous avez dans cette association des personnes morales, notamment l'association de critique des médias françaises Acrimed. Puis vous avez des chercheurs souvent issus de l'EPC. Mais en fait, les chercheurs souvent issus de l'EPC, les collègues, ne revendiquent pas du tout le propos qui est là-dessus, en considérant que ceci est un propos purement militant. Il y a d'ailleurs une coupure entre certains d'entre eux, ils ne sont pas tous d'accord, mais que ici on est dans le registre militant, mais pas du tout dans le registre de la recherche. Alors que certains chercheurs considèrent que, en fait, non, les registres militants et de chercheurs sont tout à fait complémentaires, alors que d'autres estiment là qu'ils ne le sont pas. Et à mon avis, ce serait très intéressant de faire une recherche là-dessus. L'échec de l'OFM s'explique au moins en partie à cause de ces deux visions des rapports entre recherche et militantisme. On peut noter en plus que les références qui sont mobilisées par l'OFM, justement, les références, c'est Chomsky, Normand Baillargeon ici, Serge Halimi, dont je viens de parler, Serge Halimi qui, en fait, est français d'origine, mais a fait son doctorat à Berkeley. Mais tous ces auteurs, Chomsky, Baillargeon, Halimi, sont très très peu considérés dans les études en communication. Très très peu. Je pense que dans tous les écrits que j'ai pu lire, qui s'inscrit dans les études en communication, par des collègues des universités montréalaises, disons, tout ce que j'ai pu lire. Je pense qu'au maximum, j'en ai vu deux qui faisaient référence à Chomsky de façon positive.
Mais Chomsky est très présent dans les médias alternatifs, les journaux verts, les journaux de militants sociaux.
Ah, tout à fait. Mais là, je parlais dans le monde de la recherche universitaire, en communication plus spécifiquement. Parce qu'en en fait, il va avoir une figure dans le monde des études en communication, une figure de militant en communication, alors qu'il est chercheur en linguistique au MIT. Et lui-même, d'ailleurs, a tout à fait reconnu que ces deux activités de militant et de chercheur étaient complètement séparées, qu'il n'avait jamais réussi à créer des liens forts entre son travail au MIT et puis son travail de militant. On pourrait dire aussi, sur la question relation entre militantisme et recherche, on pourrait aussi renvoyer à Bourdieu, son petit opuscule sur la télévision, qui d'un côté a un grand succès en France, un grand succès avec un tirage important, et qui va être dans les milieux de l'information, de l'info, comme on appelle l'infocom, les sciences de l'information et de la communication en France, qui va être littéralement descendu. Il va être aussi descendu, d'ailleurs, pour deux ou trois raisons, dans les milieux journalistiques. Il y a un texte de Pascal Fortin, publié en 2000, qui est très très intéressant par rapport à ça. Bon, plus si on rajoute à tous ces éléments, là, il faut dire que la communication... Les études en communication se retrouvent face à trois problèmes par rapport à la possibilité d'adopter un point de vue critique. Une discipline qui est marquée par l'importance de la pratique, premièrement. Je ne veux pas dire, attention, je ne veux pas opposer naturellement praticien et théoricien. Parce qu'on peut très bien être un théoricien, et j'en connais, on peut très bien être des théoriciens qui appliquent des méthodes systématiques et qui ne réfléchissent jamais sur celles-ci. Et qui en fait ne sont jamais que des praticiens de la théorie, alors qu'on a aussi des praticiens qui réfléchissent considérablement sur leur pratique, et qui en fait théorisent sur leur pratique. Donc je ne veux pas dire qu'il y a une opposition naturelle entre théoriciens et praticiens. Mais il y a une certaine tendance, néanmoins, à accorder beaucoup d'importance à la pratique, y compris dans le cadre des enseignements et des cours. Les étudiants, un certain nombre en tout cas, demandant souvent justement à quoi ça sert. Ça rejoindrait les deux fameuses... l'opposition, la tension, on va dire la tension entre les deux missions de l'université. Ensuite, une discipline marquée par la domination du fonctionnalisme, alors c'est encore plus présent, plus spécifiquement aux États-Unis, moins présent au Canada, notamment parce que, comment dire, parce que le Canada est marqué quand même dans une certaine mesure, on le voit très bien encore dans la revue Canadian Journal of Communication, c'est très très présent, par la, j'allais dire, le père fondateur, entre guillemets aussi, parce qu'il faut toujours prendre ça avec beaucoup de pincettes, cette notion-là, mais Harold Innis, qui est en effet considéré par un certain nombre d'entre nous comme le père fondateur des études en communication au Canada, et Harold Innis qui propose justement une perspective qui est critique. Avec Renaud, là, on a trouvé, c'est l'un des enseignements qui nous a, ben, je ne sais pas, peut-être pas étonné, mais la pensée d'Innis est revisitée en permanence dans le Canadian Journal of Communication, c'est tout à fait d'ailleurs intéressant. Donc cette, la deuxième remarque, marquée par la domination du fonctionnalisme, c'est moins présent au Canada qu'aux États-Unis. Et une discipline marquée par l'importance accordée au sujet. Alors ça, c'est tout à fait frappant depuis, je dirais, au moins 10-15 ans, mais c'est lié aussi au contexte idéologique de notre époque. Je dirais, ça serait intéressant de faire une étude plus systématique, évidemment. Hein. C'est l'histoire que c'est le sujet qui prime. Alors ça rejoint une préoccupation. Mes préoccupations rejoignent celles de Bernard Miage qui dit « Malgré l'intérêt que représente l'étude de la réception ou de la prise en compte des négociations qui interviennent en facteur dans les interactions quotidiennes, médiatisées ou non, l'approche de la communication ne serait délaissée durablement comme elle tend à le faire présentement le niveau macro-social. » Le fait de délaisser le niveau macro-social, évidemment, est aussi lié au fait de délaisser l'histoire. 5 minutes ? On va essayer. Et en particulier, les logiques d'action qui correspondent aux stratégies des acteurs dominants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus travailler en permanence sur des stratégies d'acteurs sans penser que celles-ci ne s'inscrivent pas dans différentes logiques d'action. Logiques d'action qui peuvent être d'ailleurs contradictoires les unes avec les autres et s'opposer, évidemment, dans un cadre de rapport conflictuel. Logiques d'action correspondant aux stratégies des acteurs dominants. Grands groupes de communication, opérateurs de télécommunication, etc., et des États. Et dernier élément qui pose problème pour le développement d'une démarche critique en communication, je pense, et là, c'est peut-être encore plus spécifique aux études en communication par rapport à l'ensemble des sciences sociales et humaines. Évidemment, dans mon propos, je postule, on l'a pas forcément, tout le monde n'a pas forcément peut-être ce point de vue-là, mais que les sciences de la communication font partie des sciences humaines et sociales. De mon point de vue et dans le cadre de ce que je travaille. Le mélange des genres où tous les discours se valent, c'est Rick Neveu qui dit ça, enfin qui disait ça en 1994, c'est qu'en fait vous avez tout un tas de discours de professionnels des médias, de professionnels de la communication, vous avez tout un tas de discours de gens qui constituent, je cite Neveu, une véritable théorie indigène de la société de communication, mixte de théorisation issue de la pratique professionnelle et d'emprunt à des travaux de chercheurs ou d'essayistes. Et en fait finalement, les discours des chercheurs en communication se retrouvent complètement noyés dans un tas d'autres discours qui sont issus d'autres sphères de la population, à commencer par les gens qui sont du milieu professionnel. Et c'est quelque chose qui est plus présent, je pense, en communication que dans d'autres disciplines. Ce qui rajoute en fait un brouillage considérable des pistes. Et ça se voit très très bien dans les travaux étudiants. Moi je remarque ça, alors bon, ça fait 9 ans que je suis prof, donc je n'ai pas une expérience à long terme, on va dire. Je ne sais pas si je tiendrai le même propos dans 10 ou 20 ans, mais je trouve par exemple qu'il y a une très grande difficulté chez certains nombres d'étudiants à distinguer les niveaux d'analyse dans un texte, hein, et à distinguer que un propos de chercheur n'a pas le même statut que quelqu'un qui va être cité par ailleurs. Ou bien même, je retrouve dans certains travaux, le fait que certains étudiants vont considérer que tous les auteurs qui sont tous cités positivement par l'auteur. Alors, ce qui fait qu'on trouve des aberrations, y compris un étudiant qui conclut « Ah ben, l'auteur est fonctionnaliste », alors qu'en fait, c'est un auteur très très critique, mais il apparaît comme fonctionnaliste parce qu'il a fait appel à tout un tas d'auteurs fonctionnalistes. Et l'étudiant ne se rend pas compte que, sans distinguer les niveaux de discours, on ne peut pas savoir qu'il y a une critique plus ou moins implicite, plus ou moins claire, parfois elle n'est pas claire, il faut dire aussi, mais plus ou moins claire, donc, de certains auteurs. En guise de conclusion, alors je propose deux auteurs de référence pour réfléchir un peu. C'est d'une part Freytag, et puis après je vais revenir sur Voile. Bon, et ça rejoindrait aussi ce que la petite insiste tout à l'heure sur l'autodiscipline dans le cadre universitaire, en fait. Hein, ce qui fait que parfois, je suis moi-même en ce moment directeur d'un programme, le programme de doctorat, et puis en fait, ce serait bien de temps en temps que je m'interroge sur le fait, est-ce que j'organise mon travail de façon à satisfaire quel besoin est-ce que c'est celle de la direction de mon institution, celle des étudiants, etc. Ou les miens. Donc, mais il y a un auteur super intéressant là-dessus qui est assez peu mobilisé, en tout cas dans les études sur les médias, peut-être plus en communication organisationnelle, c'est comment s'appelle-t-il, évidemment son nom m'échappe à l'instant, mais Luc le connaît bien, c'est Vincent de Gaulle-Jacq. Vincent de Gaulle-Jacq qui travaille beaucoup sur ces questions-là, absolument passionnant. Hein. Il a écrit pas mal de bouquins, mais il y en a un qui s'appelle « La société malade de la gestion », où il montre bien que toutes les organisations publiques, parapubliques, privées, communautaires, sont toutes gangrénées par une espèce de rationalisation, de productivité, qui passe, entre autres, justement, par... Jean-Guy Lacroix parlerait d'auto-exploitation de soi-même, en fait. Hein, voilà. Ce sont des d'auto-exploitation. Donc, je reviens à Freytag. C'est peut-être l'institution de l'éducation. Évidemment, il dit c'est peut-être, mais c'est tout à fait ce qu'il pensait. C'est peut-être l'institution d'éducation, mais ça, c'est pour vous aider à cogiter. L'institution... En tout cas, moi, j'ai lu son texte, paru dans un petit bouquin l'an 2000, juste après la grosse grève qui a eu lieu au département de sociologie. Ça avait été tout à fait passionnant, ce qui s'était passé, d'ailleurs. Et je vous avoue que... je finissais mon doctorat. Je vous avoue que... c'était suite... si ma mémoire est bonne, je n'avais pas prévu d'en parler, mais je vais y en dire deux mots, parce que c'est quand même intéressant... de voir comment les départements peuvent réagir de façon extrêmement différente. C'était lié à la lutte contre l'accord multilatéral sur l'investissement et aux politiques de libéralisation des investissements. Il y avait eu une grosse réunion de l'OCDE à Montréal, à l'hôtel Sheraton, et il y avait un certain nombre d'étudiants, notamment de sociologie, qui s'étaient enchaînés un matin à 6h30 autour de... Et en fait, ils ont été en procès. Il y a eu notamment trois profs, Lacroix, Freytag et Mascotto, qui ont été au procès, qui ont pris la parole. Ça a été un espace aussi où ils ont eu la possibilité de publier dans Le Devoir, par ailleurs. Et c'était frappant parce que je trouvais que c'était en ébullition du côté du département de sociologie, alors qu'il ne se passait rien du tout encore. Bon. Je passerai, parce que là j'ai eu plusieurs histoires, mais je passerai même sur le fait que, d'après ce que j'ai compris à l'époque, mais je n'ai pas voulu creuser la chose, je n'ai pas eu le temps, puis après je suis devenu prof à Ottawa. C'est que même Michel Freytag avait été invité par l'Association des études des étudiants et des étudiantes de maîtrise et doctorat, la MDC. Et d'après ce que j'ai compris, mais je ne sais pas s'il y en a qui le sauraient mieux que moi, il y a eu un veto de la direction du département des communications à ce sujet-là. On n'avait pas invité Freytag parce que c'était le diable. Voilà. Alors c'est peut-être l'institution de l'éducation, en tant qu'elle transmet encore un idéal civilisationnel, qui pourrait représenter le cœur de cette résistance. La liberté académique aujourd'hui, c'est la liberté... Alors j'ai supprimé un mot parce qu'il dit la liberté académique, c'est pas de marcher à côté de ses pompes, quelque chose comme ça. C'est la liberté d'agir dans le monde selon sa pensée pour empêcher la déshumanisation du monde et pour promouvoir un monde plus juste, plus ouvert et plus accueillant. Ça rejoint aussi ce que disait... Je dis pas du tout que Freytag et Marx sont sur la même longueur d'onde, mais ça rejoint ce que disait Marx sur la vie bonne. C'est quoi la vie bonne? Ce ne sera pas le meilleur des mondes, et espérons que ça ne le sera jamais, mais il pourrait être un lieu où la recherche d'un monde meilleur reste toujours possible pour tous. Et il invitait dans le texte de 2000, c'est un de mes textes que j'ai trouvé les plus stimulants par la suite, alors j'étais en train de terminer mon doctorat, il invitait donc les intellectuels, universitaires, professeurs et étudiants à redevenir des intellectuels engagés et militants qui s'opposent d'abord à la réduction en statut d'expert. À la faculté de communication, je suis en train de travailler sur le site web de la faculté. Du site web du doctorat en communication. Et alors je ne sais pas si ça va passer ou pas, mais la mention en face de la mention prof, c'est marqué professeur expert. Moi j'ai demandé que ça ne soit pas précisé. Alors je ne sais pas, est-ce que la mention d'expert saute? Je ne sais pas si je vais obtenir gain de cause, mais en tout cas je me bats là-dessus parce que je ne supporte pas cette notion d'expertise. Tout à fait d'ailleurs dans la lignée de Freytag. Évidemment. Néanmoins, j'ai une position plus mesurée sur l'articulation entre recherche et militantisme. Pour ça, mais je n'ai pas de réponse là-dessus. Si vous en avez, vous pourrez. Et enfin, alors je reviens sur un texte d'Olivier Warhol, donc, qui est un auteur que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques mois. Olivier Warhol, donc, c'est un chercheur qui travaille à l'Institut de recherche sociale à Francfort, hein, donc à l'école de Francfort. Et c'est un chercheur qui travaille sur les médias. Je ne l'ai jamais... précision, jusqu'à il y a 6 mois, alors peut-être que c'est parce que ses travaux aussi sont récents, mais jusqu'à il y a 6 mois, je n'avais jamais vu Warhol cité dans aucun travail universitaire en communication. Je trouve ça intéressant par ailleurs. Warhol dit donc, alors lui il prend défense généralisée des travaux de la première génération de l'école de Francfort, dans un contexte qui a à nouveau bien changé, parce que j'ai pas mis en avant le contexte, mais ce qu'il faudrait faire, c'est que sur l'évolution des travaux, la démarche critique, première génération de l'école de Francfort, deuxième génération dont je n'ai pas parlé, mais c'est intéressant de voir l'évolution d'Habermas d'ailleurs, dans ce cadre-là. Troisième génération, celle-ci. Et puis on mettrait tout ça en relien avec l'économie politique de la communication, les cultural studies notamment, les études féministes, et puis tout ça en lien avec le contexte socio-historique. Bon, alors évidemment, le contexte a à nouveau bien changé, puisqu'en fait je pense qu'un certain nombre d'éléments qui avaient contribué, du contexte socio-historique, qui avaient contribué à remettre en cause certaines positions de l'école de Francfort, aujourd'hui sont plus valables que jadis. L'accroissement très fort des inégalités. En fait, on pense à la fin des années 60, au début des années 70, que les inégalités, en effet, ont diminué considérablement hein, autour de dans la période fordiste. Mais ces inégalités économiques, notamment, ont réaugmenté considérablement. On avait des chiffres ahurissants récemment sur le Canada, alors que souvent on estime que le Canada, c'est pas du tout les États-Unis. C'est vrai d'un côté, mais d'un côté, les chiffres de Statistique Canada, c'est pas un organisme particulièrement, j'allais dire, subversif. Accroissement très fort des inégalités, rapport de domination persistant, y compris au travail, puisque aussi, dans les années 60, on pense que le travail n'est plus une sphère centrale, bon, société des loisirs, etc. Concentration des médias, la concentration des médias n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui, et quand on dit Internet c'est la liberté, Internet c'est le pluralisme et tout, il faut au moins problématiser ça. D'ailleurs, il y avait des travaux, il y a quelques années, il y avait une vidéo qui était très intéressante, une vidéo qui disait en 2020, le monde, finalement, bah, c'est Microsoft et Google. Hein. Voilà. Alors, ça sera peut-être Yahoo et Google, mais bon. Alors, ça ne veut pas dire Apple et Google, oui. Ça ne veut pas dire, évidemment, hein, attention, hein, qu'il n'y a pas, justement, de petites entreprises, parce que les grandes entreprises ne fonctionnent pas sans les petites, mais je n'ai pas le temps de développer. Accroissement très grand des inégalités, rapport de domination persistant, y compris au travail, concentration des médias et l'importance des médias dans la société ne fait que croître. Les relations, me semble-t-il, sont de plus en plus médiatisées d'une façon ou d'une autre. Globalisation du capitalisme, j'en ai parlé tout à l'heure très brièvement, avec le fait notamment la globalisation au sens planétaire du terme, hein, de moins en moins de pays échappent au système, et diminution des espaces hors système, même s'il y a toujours en effet des résistances qui se développent. Et Warhol dit, alors justement, est-ce que le contexte aujourd'hui ne serait pas favorable à un certain retour, c'est la question que je pose, à un certain retour justement de la pertinence des recherches sur la première génération d'école de Francfort. Moi, je me souviens qu'il y avait une chose qui m'avait intéressé il y a quelques années, quand je me suis replongé dans Adorno, c'était le travail qu'ils effectuaient entre le lien entre l'industrie culturelle et Hollywood, et le complexe militaro-industriel, disons. Ça, c'est tout à fait frappant, hein, les liens entre... Et je me suis un peu penché là-dessus, depuis. Et il y a des travaux très intéressants, y compris d'auteurs qui n'ont jamais sans doute lu Adorno et Horkheimer, qui, justement, établissent des liens très intéressants entre, justement, ce complexe militaro-industriel et puis les médias hollywoodiens. D'ailleurs, des films sont financés, y compris par le Pentagone, là-dessus. Alors, ce que dit Warhol, force est de constater que ces critiques font le plus souvent une lecture superficielle limitée à la lecture de quelques textes et parts, sans replacer la critique francfortoise des médias dans son cadre théorique général. Ce modèle de la critique des médias apparaît alors sous une forme particulièrement naïve qui occulte sa profondeur théorique et sa teneur conceptuelle. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc je n'y reviens pas. Warhol, en fait, réfute les critiques de la première génération de l'école de Francfort en trois points. La critique des médias, pour lui, ne peut s'inscrire que dans une critique générale de la société, donc on retrouve le retour aux théories globales. Pas possible d'isoler. Deuxièmement, pour lui, l'accent mis sur la dépossession des sujets sociaux, c'est pas basé sur une conception externe, une position de surplomb, mais sur une position interne de la critique, pour lui. Et puis pour lui, la première génération de l'école de Francfort ne relève pas de la conception spéculative, mais elle part d'analyses concrètes qui sont menées sur les produits de la culture de masse. Loin de prétendre que les médias modernes sont tout puissants en eux-mêmes, cette approche vise, je l'ai déjà signalé tout à l'heure, cette approche vise à comprendre les transformations sur le plan des rapports sociaux, de l'économie et de la culture qui contribuent à l'apparition de sujets disposés à s'en remettre sans résistance à des institutions puissantes dont font partie les médias. Autrement dit, les considérations sur la réception, proprement dites, sont réinscrites dans une série de processus qui ne concernent pas directement les médias, approche non médiacentrique, pas les médias, mais qui informent le type de rapport que les sujets sociaux entretiennent entre eux. Alors il faut travailler sur la famille, sur d'autres institutions, pour voir, non seulement sur les médias, mais sur d'autres institutions comme la famille, pour voir comment évoluent en fait ces structures sociales. Et c'est à partir de là qu'on peut avoir une idée des conditions de réception, de transformation de la réception des médias. Par conséquent, il s'agit moins pour la théorie critique, c'est Warhol qui met ces majuscules, de pointer la toute-puissance des médias que d'identifier les processus qui font des sujets modernes des individus faibles, n'ayant d'autre recours que de s'en remettre à des institutions dont les orientations leur échappent. Est-ce que j'en suis à la fin, là? Je pense que... Ah bon, bah alors, je peux m'arrêter là, puis j'enverrai le PowerPoint.
S'il vous plaît.
Bah, je pensais pas que j'avais parlé autant depuis que tu m'as dit qu'il me restait...
Si.
Et puis je vais arrêter le système.
Alors, les hostilités sont ouvertes, si vous voulez. Oui.
Allô. Eric, merci beaucoup. Comme d'habitude, tu es structuré, méthodique et minutieux. Ah. Oui, surtout.
Autodiscipliné.
Oui. Écoute, juste une remarque rapide. J'ai bien aimé effectivement, la citation de Neveu qui parle des praticiens qui se prêtent à faire la théorie. Et je voulais juste illustrer ça par l'exemple de Jacques de Bouchard avec les fameuses cordes. Francis Bourg, c'est un site des Québécois. Il a publié durant les années 70. C'était un publicitaire qui s'est mis à théoriser sur les façons de sensibiliser les Québécois. Or, à quel public s'adressait cet ouvrage? Est-ce qu'il s'adressait au peuple québécois lui-même? Question qui puisse en apprendre un petit peu plus sur lui-même. Ou s'adressait-il aux publicitaires pour leur donner la recette? C'était ça, c'était.
Alors, écoute, c'est super intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai déjà eu des collègues ici à la faculté de communication qui ont mobilisé les écrits dont tu parles parmi les ressources universitaires. Voilà. Alors, donc tu vois, on est encore dans un autre registre que le tien. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des idées intéressantes, mais comme je dis souvent, il y a deux types d'écrits. Il y a les écrits qui aident à problématiser. Et puis les écrits qui aident à conceptualiser. Alors les écrits qui aident à problématiser, souvent, je trouve que ce sont des écrits avec lesquels on a un rapport éventuellement conflictuel, mais qui permettent en fait de s'interroger, justement, en disant, on lit un auteur, puis tout d'un coup on se dit, ah, c'est pas possible, c'est n'importe quoi, par exemple. Bon, alors ça aide à problématiser, en fait, ce genre de... Mais je pense qu'il faut pas confondre les auteurs qui aident à problématiser et les auteurs qui aident à conceptualiser. C'est pas forcément les mêmes, ça peut être les mêmes, mais...
Merci. Evan?
Mais bon, en tant qu'activiste chercheur, il y a beaucoup, vraiment dans mon expérience, les domaines de politique de communication, il y a beaucoup plus de recherches critiques qui est effectuée par les chercheurs que des actions concrètes dans un système politique. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est de différencier des chercheurs critiques et des recherches critiques de chercheurs empiriques et recherches empiriques. Si le premier, le chercheur critique et le chercheur critique ne s'intéresse pas dans des démarches de changement social, dans des mouvements sociaux, par exemple.
Alors écoute, je vais prendre mon propre exemple. J'ai déjà du mal depuis quelques années à travailler sur des projets de recherche à cause d'un certain nombre de responsabilités. Alors je t'avoue que lorsque j'ai fait ma thèse, j'ai été pendant un certain nombre d'années militant au sein d'une association qui était l'association ATAC, là, pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens. J'avais participé aux activités pendant 1 ou 2 ans. Je l'ai fait aussi parce que c'était, dans le cadre de ma thèse, je travaillais sur les usages d'Internet au sein d'ATAC. Mais je dirais que dans le cadre justement d'un processus de carrière, j'ai complètement abandonné cette facette à tort, enfin, je le regrette. J'y reviendrai. Il y a eu aussi un certain nombre de phénomènes. C'est que j'ai décroché quand je suis devenu prof à Ottawa parce que je ne pouvais pas venir aux réunions à Montréal. Puis après, il se trouve qu'on accorde la priorité à tout un tas de phénomènes qui sont internes à l'université, qu'on accorde la priorité à la carrière universitaire. Et que la dimension, en effet, la dimension qui est aussi une dimension... comment dire, parce que c'est en sortant aussi de son milieu que l'on va plus loin théoriquement. C'est pour ça que je fais un lien toujours permanent entre les démarches inductives et les démarches déductives. Parce que la seule façon de faire progresser aussi la pensée d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue théorique, c'est de pouvoir avoir un lien, et des liens en fait, des liens divers avec tout ce qui se passe j'allais dire entre guillemets, sur le terrain. C'est pour ça que je fais partie des gens qui pensent que normalement, même les chercheurs qui sont, enfin, autant que j'espère, même les chercheurs qui se considèrent vraiment comme des théoriciens, sont des gens qui, en fait, ils vivent dans le monde social, jusqu'à preuve du contraire. Et même s'ils n'emploient pas une méthodologie éventuellement systématique, il n'y a pas de tour d'ivoire. Moi, je ne pense pas. Je fais partie des gens qui estiment que normalement, la notion de tour d'ivoire, de l'université de tour d'ivoire, c'est une notion qui est très, très problématisable. Ou alors, à moins de passer sa carrière à rester dans les murs de l'université, à dormir sur place. Mais même, il suffit d'aller dans un hôtel à l'occasion d'un colloque. Moi, je me souviens avoir passé 3 jours dans un hôtel à Nice. Et j'avais trouvé ça passionnant. Toutes les hiérarchies sociales, tous les rapports de domination se retrouvent parfaitement dans un hôtel. C'est passionnant d'avoir une démarche d'observation plus ou moins participante, mais beaucoup plus intéressante que le colloque. D'ailleurs, le colloque, je me souviens d'aucun contenu, mais ce qui s'était passé dans l'hôtel, j'avais trouvé ça. Donc j'allais dire. Je pense que c'est une question aussi, parce que ça rejoint ce que disait Michel. On se fixe aussi certaines normes en ce qui concerne notre travail, et après, c'est récupéré par les instances directrices pour plus ou moins récupérer, parce que ça l'est plutôt moins ici, par exemple, qu'à l'Université d'Ottawa, où. Luc m'en parlerait beaucoup mieux que moi, là, mais où je trouve qu'il y a une pression plus forte sur... Il y a des côtés positifs aussi, sur la pression, sur la carrière. Il y a des côtés aussi, franchement, problématiques. Mais aucune institution n'est... Enfin, on ne va pas s'éloigner, là. Okay. Mais tu vois, c'est un vrai problème. Moi, c'est l'un de mes objectifs, j'allais dire. Quand je n'aurai plus de direction à avoir, peut-être que je retournerai plus vers le milieu du militantisme pour aussi favoriser un enrichissement de ma pensée conceptuelle.
Merci, Fabien.
Oui, merci pour cette exposé-là. Fabien Dumais, docteur en communication. J'ai 3 commentaires, questions. Je vais essayer de faire rapidement. Concernant en fait, le premier questionnement, à savoir est-ce que c'est possible vraiment d'avoir des études critiques, qu'est-ce que ça implique au niveau épistémologique? Tu parlais de neutralité axiologique qui causait, du moins, tu avais un questionnement.
Qui m'interpelle, comme on dit.
Pardon?
Qui m'interpelle.
Qui t'interpelle, justement. Je trouvais qu'il y avait une. Pour le dire rapidement, je trouvais qu'il y avait la possibilité d'aller chercher, justement, c'est drôle parce que c'est un mot que tu as utilisé par la suite, celui de problématisation, en fait, il y a peu d'écrit là-dessus, mais Michel Meyer qui écrit de la problématologie, puis c'est un philosophe qui a travaillé beaucoup sur la rhétorique, mais aussi sur, justement, une méthode de questionnement philosophique qui s'appliquerait, par conséquence aussi aux sciences. Dis-moi comment on va sur elle-même. Concernant la neutralité axiologique, justement, je trouvais que c'est que si on postule une neutralité axiologique, si on postule un beau puis un juste qui nous précède, c'est comme si on postulait une proposition avant le problème, comme s'il y avait comme un état de proposition auquel il faudrait chercher à trouver, alors que il y a plusieurs auteurs quand même, comme chez Deleuze aussi, dans la logique du sens, il va plutôt tendre à poser le problème, comme quoi toute proposition pose un problème qui le précède. Donc, il y a une façon de penser l'épistémologie en arrière de ça qui amène une théorie critique à avoir des valeurs d'épistémologie. Deuxième, c'était une question sur... parce que ton exposé, il m'a interpellé avec son titre, il disait « Critique, vous avez dit critique, les études en communication ». Or, j'ai plutôt l'impression, en fait, tu sauras me répondre, rebondir là-dessus, que c'est comme si dans ton titre, tu disais « il y a des prétentions critiques dans les études en communication, alors que dans les faits, elles ne le sont pas ». Or, ton exposé a plutôt tendance à dire « il y a des quelques études critiques, mais il y en a peu, puis il y en a d'autres qui sont tout simplement pas, sans nécessairement qu'il y ait de prétention. Donc, je ne sais pas si tu pourrais rebondir là-dessus.
Fabien, est-ce que je peux te demander de te limiter à ces deux? On a 5 autres personnes
ah,
oui, et nous reste des minutes.
Pas de problème, c'est dommage, l'autre était là.
Éventuellement. Un autre tour, éventuellement, on va partir avec ça.
Alors, pour la première, je te propose d'en reparler, c'était plutôt un commentaire, mais qui m'intéresse beaucoup. Pour la deuxième, alors, oui, alors là. Écoute, en fait, j'ai toujours des problèmes avec mes titres. Mais en fait, généralement, je reviens toujours sur le titre avant la fin. Quand j'y mets le point final au PowerPoint ou au texte, je reviens sur le titre. Mais il était très tard cette nuit quand j'ai fini le PowerPoint, donc je n'ai même pas pensé au titre, j'ai pensé à autre chose. Voilà. sur la place, alors, parce que c'est très... A priori, avec Luc, d'ailleurs, on est parti du postulat de l'intuition de départ, c'est que les études critiques en communication sont très minoritaires. Mais alors, attends, pour avoir, justement, après, il faut quand même passer, justement, au terrain. Et dans ce cas-là, le terrain, c'était l'étude des revues communication et du Canadian Journal of Communication. Et on se rend compte, en tout cas, que dans ces deux revues-là, qui sont les deux revues emblématiques des études en communication au Canada, on se rend compte que... il y a une certaine présence, peut-être plus, Renaud, dans le Canadien, si mes souvenirs sont bons, dans le Canadian Journal of Communication que dans Communication. Mais c'est aussi parce que dans le Canadian Journal of Communication, en fait, les problématiques, on va dire, en termes socioculturels, pour apprendre ce que disait Michel, sont plus présentes. Alors que dans Communication, les perspectives critiques sont moins présentes, mais tournent plutôt autour des travaux sur les industries culturelles, on va dire, l'économie politique de la communication. Mais là, il faudrait... Et on a travaillé sur les 5 dernières années. Mais tu vois, pour voir... alors... Non, c'est un vrai questionnement, en fait. J'ai pas de réponse définitive, en tout cas, par rapport à... je trouve que c'est difficile. Même au sein de l'UQAM, qui est pourtant une institution historiquement critique, on va dire. Bon. Mais je trouve que même au sein de l'UQAM, au sein de la faculté de communication... C'est pas si fréquent, les chercheurs critiques. Bon. Mais il faut aller au-delà quand même. Parce qu'on se rend compte, par exemple, qu'on est très isolés les uns des autres, à part les gens qui collaborent entre eux. Et par exemple, j'ai eu quelques surprises, notamment pendant la grève. Parce que la grève, il y a 3 ans, a été un révélateur tout à fait passionnant sur le fait qu'on commence à échanger les uns avec les autres et qu'on se trouve, par exemple, des points communs qu'on ne soupçonnait pas auparavant. Mais ça, c'est parce qu'on prend le temps de commencer par aller au-delà des bonjour, bonsoir, et par commencer à parler au bout de quelques semaines de choses qui sont des choses de fond, parce qu'on a le temps. Voilà. Ça rejoint aussi ce que je disais à Evan, là. Parce qu'on a le temps et qu'enfin, on peut aller un peu au-delà des apparences. Alors qu'en fait, c'est très compliqué de commencer à parler épistémologie, théorie, concept, avec quelqu'un qui n'a pas une large base commune avec soi-même, parce qu'il faut remonter sur bien des points, il faut rediscuter de postulats qui sont complètement implicites et complètement qui ne sont jamais rediscutés généralement. Et la grève avait été un bon exemple de temps en temps de pouvoir discuter vraiment de façon approfondie.
Merci Eric. J'ai encore 5 personnes sur la liste. À commencer par
toi.
Tu passes ton tour.
Je vais
te laisser une seconde chance. Alors, j'ai toi.
Oui. Mais en fait, moi, je suis...
Peux-tu te présenter?
Oui, François Laplanque. J'ai été récemment engagé comme agent de recherche au GRISIS. En fait, c'est simplement un commentaire sur...
c'est parfait, j'aurais pas besoin de me répondre.
quand tu parlais... des militants par rapport aux chercheurs et tout ça. Moi, je suis issu de sciences politiques et c'est une question qui est extrêmement préoccupante en sciences politiques parce que très souvent, les chercheurs universitaires qui décident de flirter avec le militantisme ou simplement une adhésion à un parti politique ont souvent énormément de difficultés à s'en remettre parce qu'ils ont une étiquette qui leur colle à la peau. Je pense par exemple à des chercheurs comme Guy Laforêt qui a flirté avec la DQ ou à Hugo Cyr qui est un juriste qui travaille aussi pour le NPD. Ces étiquettes-là sont très 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 fortes et très très marquées en sciences politiques. Et il y a aussi toute une espèce de chasse aux sorcières, c'est-à-dire qu'on lit un auteur et on recherche toujours quel est le point de vue militant derrière ce texte-là. Et il y a beaucoup de boîtes fermées en sciences politiques, surtout sur les questions nationalisme, fédéralisme, la gauche, la droite et tout ça. Et la plupart des chercheurs sont... On va lire un auteur fédéraliste sur la question nationale du Québec, ou on va lire un auteur souverainiste sur la question du fédéralisme canadien, tout ça. C'est très, très, très difficile de sortir de ces cadres-là. Et actuellement, les chercheurs qui réussissent à sortir de ces étiquettes-là, ben, ce qui arrive, c'est que les fédéralistes vont le considérer comme un auteur souverainiste et les souverainistes comme un auteur fédéraliste, par exemple. Et ça pose aussi beaucoup de problèmes très concrets, par exemple, au niveau de la traduction d'ouvrages. Il y a un ouvrage qui est sorti en 2005 au Québec sur le fédéralisme canadien contemporain. Et il y a eu des volontés de publication en anglais à UFT Press, Université de Toronto, et ils ont dit on va appeler ça Contemporary Canadian Federalism, a Quebec Perspective. Donc, et là, les auteurs ici se sont battus pour ne pas avoir ça en disant on est des auteurs qui s'intéressent au fédéralisme, on fait pas un point de vue québécois. Donc je trouvais ça intéressant de voir que ça se pose aussi en communication, ce genre de problème-là, parce que c'est quelque chose qui est très, très important en sciences politiques.
Alors je vais faire un commentaire sur ton commentaire, quand même, très, très rapide. C'est que j'ai eu il y a quelques années, je mentionnais Éric Neveu, qui est un auteur, si je ne me trompe, qui est de sciences politiques à l'origine. Éric Neveu disait, par exemple, qu'en France, en tout cas, la science politique était une discipline où tous les travaux sur les mouvements sociaux, par exemple, étaient que vraiment les travaux les plus nobles, ça tourne autour de l'élection, et que les travaux, par exemple, sur les mouvements sociaux auxquels il s'est intéressé dans sa carrière, en revanche, ça a une valeur symbolique extrêmement faible. Donc, c'est un commentaire sur... Mais peut-être que ça a changé depuis.
Alors...
Ce qui fait que souvent les auteurs intéressants sur les questions de sciences politiques, je trouve, viennent plutôt de la sociologie politique,
oui,
plutôt voilà, que des sciences politiques.
Okay. On va s'en tenir à notre calendrier d'inscription. Je comprends très bien. Si vous permettez, on va donner la parole aux personnes qui sont inscrites. France Aubin.
Oui, ça sera plutôt un prolongement de ce que François raconte. Je vais répondre à Evan. La distinction entre les activités militantes et les activités scientifiques, bon, c'est vrai qu'il y a une question de temps. C'est vrai que quand on est prof, on n'a plus le temps de militer, puisque je suis comme mes étudiants. Mais il y a aussi une question de comment. Quand tu fais un texte militant, tu ne peux pas écrire comme un scientifique et vice-versa. Ça veut dire que non seulement ça prend du temps, mais ça prend tout un autre travail. Ce que j'appelle les indicateurs de notoriété, le premier temps, ne sont pas les mêmes que la notoriété scientifique. Donc, ça veut dire que même quelqu'un qui travaillerait, par exemple, qui enseignerait sur les objets de sa militance, ce qui arrive rarement, aurait tout un travail de réécriture à faire. Ça, c'est difficile parfois à expliquer aux gens qui ne sont pas du milieu universitaire, qu'on ne peut pas prendre une recherche et la livrer comme ça dans un milieu militant. Ce n'est pas les mêmes canons, ce n'est pas la même façon d'écrire, ce n'est pas le point de vue pour placer au même endroit, si tu veux. Puis dans ma tête, sur les intellectuels, c'est un des chapitres, si tu veux, je pourrais t'envoyer. Je faisais vraiment une typologie des activités de recherche des intellectuels d'hôpital que j'avais rencontrés, puis les intérêts de militance. Et j'avais, de mémoire, ça commence à faire longtemps, j'avais qualifié de trois façons le lien. Mais rarement, très rarement, un chercheur enseignait ou travaillait dans le milieu académique sur l'objet qui était l'objet de sa militance. Alors, ça veut dire que c'est encore plus compliqué. C'est que même comme militant, si tu es un bon militant, tu fais quand même beaucoup de recherches. Il faut que tu fasses de la recherche sur ton sujet de militance, mais ce n'est pas nécessairement ça que tu vas enseigner. Alors, ce qui est intéressant dans le temps d'observer, c'est comment moi, j'avais regardé, entre autres, avec Brunel, comment... Ces dossiers de mobilisation avaient fini par faire partie de son enseignement, mais ça avait pris du temps. Ça veut dire que pendant des années, il fallait qu'il travaille en double, si tu veux. Et c'est... Parfois, il y avait un certain recrutement, mais souvent, c'est très éloigné. Puis je pense que les chercheurs que moi, j'avais rencontrés n'étaient pas tous en com, mais en com, c'est vraiment marqué. Si t'es chercheur critique, t'as pas souvent l'occasion d'enseigner ce qui t'intéresse. Donc, c'est aussi ça. Tu peux même pas... même si c'est un gros travail de réécriture, tu ne peux même pas l'amener dans ton enseignement. C'est encore plus compliqué.
Oui, j'aurais ajouté un élément. Avec France, on a travaillé sur une recherche sur les médias autochtones. Il y a aussi une. Ça demande un sacré travail aussi, à la fois d'avoir une exigence en termes de production scientifique, donc de travailler à partir d'approches théoriques, de concepts sur le développement des médias autochtones. Et puis c'est franchement différent d'un autre côté, même si on a travaillé en lien avec les nations autochtones dans le cadre de nos recherches et des médias. Ensuite, et d'ailleurs, on a encore une partie de ce travail à faire, et on ne trouve pas le temps de le faire. C'est de travailler après à la transmission des éléments de connaissance. Éléments de connaissance qui n'est pas non plus une transmission de nous à eux, qui est aussi réciproque également. Mais ouais, c'est un point un peu décalage, mais sur les formes de médiation qui sont compliquées.
Ouais. Les derniers éléments que je voulais ajouter par rapport à FRITAG, je trouve ça intéressant ce que tu as dit sur l'expertise. Dans ma thèse, je souviens le fait, ce qui m'avait frappé à l'époque, ça fait déjà quelques temps, c'est que les professeurs étaient recensés comme experts. Je le soulignais parce que je trouvais ça assez frappant que ce ne soit pas chercheur ou spécialiste, mais expert. Je l'avais noté à l'époque. Et FRITAG, je ne présentais même pas comme chercheur. Moi, quand j'ai fait l'entrevue avec lui, il m'a dit non, je ne suis pas chercheur. Même ça, tu sais, pour moi, expert, c'est quelque chose, chercheur, c'est autre chose. Intellectuel, c'est autre chose, mais même chercheur ne voulait pas se reconnaître comme ça. Puis le dernier élément que je donnerais, pour faire un lien avec Michel, dans l'extrait que tu as cité de FRITAG, il raconte que l'éducation, c'est sans doute une des façons, une des solutions, dont j'avais traité avec cet aspect-là de l'analyse du discours des intellectuels avec l'utopisme. Et la solution, c'est un des critères de l'utopisme. Et FRITAG mettait de l'avant l'éducation comme plusieurs des chercheurs critiques que j'avais rencontrés, mais aussi le recours à l'histoire. Que la sociologie, bon, il était dans un département sociaux, même s'il était souvent comme un philosophe, la sociologie devait renouer avec l'histoire, parce que c'était la façon, pour les dans les termes de Bourdieu, de défataliser le monde.
Merci Florence. Nos deux dernières interventions, Gaëtan puis Michel.
Oui, toujours sur cette question des rapports entre la militance et la pensée critique, la recherche critique, il y a une certaine convergence de vues, notamment chez les dans les deux corps de pensée que certains mouvements et certains chercheurs poursuivent la même démarche de réflexion sur le système, d'analyse critique du système, de recherche de solutions alternatives. Oui, il y a cette convergence-là, mais elle est loin d'être totale. Et il y a même des contradictions sur lesquelles il ne faut pas se fermer les yeux. Il y a la question du temps, mais il y a aussi la question des fonctions sociales et du rôle de chacun. Et c'est pas vrai qu'il y ait une convergence totale de vues et d'intérêts entre les mouvements sociaux et des intellectuels critiques. Et on le voit quand on passe à l'action. Parce qu'il y a des impératifs à l'action, qui ne sont pas des impératifs de la recherche. Et les contraintes de l'action, elles exigent parfois, même quand on partage la même idéologie, qu'il y a des impératifs stratégiques. Il faut passer à l'acte à un certain moment. Ce que le chercheur n'est pas toujours prêt à faire. Il faut remettre en question, que le chercheur veut remettre en question certaines choses, mais ça serait dommageable à l'action politique elle-même. Un exemple parmi ceux que tu as soulevé, moi j'ai eu un étudiant qui a fait une analyse du War Room du NPD pendant certaines élections. C'était un militant, le chercheur en question, un sympathisant mais il a eu accès à certaines choses, c'est très rare d'avoir accès au War Room, même celui du NPD. Mais il n'y a pas à tout. Pas à tout, parce qu'ils ont très bien compris que le rôle du chercheur était de fouiller un certain nombre de choses et de les divulguer, de les analyser, de les divulguer. Et que quand tu es dans une campagne électorale, non. Il y a ça, même pour le NPD, même quand tu pratiques une certaine transparence, il y a des informations privilégiées qu'il ne faut pas divulguer. Tu te mets dans le trouble si tu le fais. Et donc, il y a là une contradiction. Ce n'est pas juste une question de temps. Il y a des contradictions. Moi-même, j'ai tenté du travail avec certains groupes. Je pense que mon expérience la plus intense a été avec l'Institut d'éducation des adultes. Pendant 3 ans, j'ai fait partie d'un comité où on travaillait avec des syndicats, des centrales, des groupes, des producteurs indépendants, des syndicats, mais aussi toutes sortes d'associations communautaires. Et on faisait un travail et le CAM poursuit dans cette direction-là avec les services à la collectivité. Mais la convergence d'intérêt n'est pas totale maintenant. même si on partage la même idéologie, le même système de valeurs, il reste que, à un moment donné, les pressions sont fortes sur les chercheurs pour que... Vous êtes vraiment sûr de ça, là? Vous êtes vraiment sûr de ce que vous analysez, ce que vous dites, là? Parce que ça ne fait pas leur affaire. Mm-hmm. Et si je me mettais à la place de ces leaders syndicaux, ces leaders politiques, dans l'action, je ne passerais comme eux. Il ne faut pas gommer cette difficulté, cette dialectique qu'il y a entre les impératifs de la réflexion et la remise en question perpétuelle et les impératifs de l'action qui exigent qu'à un moment donné, bon, le doute, ça suffit. Donc, il faut forcer. Et ça, je pourrais multiplier les exemples à l'infini. Antoine a été confronté à des choses comme ça. Je connais d'autres chercheurs qui pratiquent les groupes populaires, les groupes communautaires, etc. Les cinéastes, Marcel Simard, ont vécu ça aussi, intensément. C'est pas simple de vivre ça. En plus de tous les autres facteurs, les autres dimensions de France et les autres dimensions, il y a cette existence réelle. Il n'y a pas toujours convergence de vue parfaite entre les objectifs des militants et les objectifs des chercheurs.
Le travail de conceptualisation, le travail de réflexion plus généralement, peut très bien mener à la paralysie, d'ailleurs. Et ça a été un reproche qui a été fait à Adorno et à d'autres membres de l'école de Francfort, justement de ne pas proposer de pistes pour sortir du système dont il parlait par ailleurs. Oui. Et l'action et la réflexion, c'est pas le même temps, c'est pas la même chose.
Pas même logique. Tous les problèmes des intellectuels français, parce que sympathique au départ, ils ont presque tous quelqu'un.
Alors, dernière intervention à Michel. Ah.
Moi, j'ai une réflexion.
Vous m'avez dit de respecter l'ordre et que je dois dire quelque chose, alors je pense que...
L'ordre est... Ok, le principe est le suivant. J'ai une liste de toutes les personnes qui sont inscrites.
Et il faut être anticonformiste parfois aussi.
Moi, ok. Vous avez parfaitement raison. Moi, je suis payé pour être conformiste ici. Et je l'assume, d'accord? Alors, la dernière personne qui s'est inscrite, c'était Michel Martin. Vous pourrez avoir une discussion informelle avec monsieur si vous le voulez. Après, vous n'étiez pas inscrit. S'il vous plaît, Michel.
D'accord. Alors, j'ai une réflexion et une toute petite question très pointue. La réflexion, c'est pour complémenter, je pense, votre analyse. Je ne sais pas combien vous êtes sur cette analyse-là, sur les deux revues canadiennes. Ou est-ce que vous avez trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de...
C'est pas majoritaire, mais il y en a plus qu'on pensait.
Ah, il y en a plus qu'on pensait. Bon. Moi, j'avais fait une analyse semblable en 2000 pour une communication dans un colloque qui avait été organisé par Réseau, par Fléchy, évidemment. Je dois dire que Fléchy était deux ans sans me parler après ça, parce qu'on était vraiment choqués par ce que j'avais trouvé. Et sur 6 revues, il y avait Réseau, évidemment, il y avait Media Culture and Society. Aux États-Unis, il y avait le Study in Mass Communication Field Research. Au Canada, il y avait Communication et Journal de Communication. Et dans le temps, les études sur les contenus étaient très populaires. Donc, j'avais fait, mon étude ne portait que sur les articles qui avaient été écrits sur l'analyse des contenus. Et j'avais trouvé quelque chose de... D'abord, j'avais trouvé des choses je pense, confirment ce que vous avez trouvé, mais très, très peu d'analyses critiques, presque pas dans le réseau. C'est ça qui avait vraiment choqué Fléchy. Les plus critiques avaient été des Studies in Mass Communication Research et puis Media Culture and Society. Mais ce qui m'avait vraiment étonné, c'est que même les analyses critiques commençaient par une approche théorique vraiment intéressante, avec des éléments critiques et tout. Et quand ils venaient pour faire l'analyse du contenu, parce qu'ils étaient tous sur le contenu, avec la méthodologie, parce que moi, dans mon domaine, moi, je me dis, il faut que la méthodologie s'accorde avec la théorie. Si tu as une théorie critique, ça te prend une méthodologie. Eh bien, presque toutes les analyses, même critiques, utilisaient des méthodologies, des usages et gratifications. Très peu utilisaient des analyses, des méthodes critiques, comme par exemple en regardant, justement, les classes ou quelque chose comme ça. Donc, c'est difficile de faire des analyses critiques, parce que tu commences critique, et là, je parle de nos collègues, je ne parle pas des étudiants. Tu commences critique, puis d'un coup, hop, tu t'en vas avec le fonctionnaliste, je veux dire, puis après ça, tu reviens dans la conclusion avec du critique. Donc, c'est comme une schizophrénie, finalement, d'une analyse. Ça, c'était le commentaire. Pour la petite question très pointue, tu parlais, tu as fait la différenciation entre chercheur et intellectuel, et tu as associé les chercheurs à une approche paradigmatique et les intellectuels à une approche idéologique. Mais pour moi, mon paradigme est idéologique. Alors, je voudrais que tu m'expliques comment tu peux faire la différence.
C'est qu'en fait, je vais revenir une seconde sur, parce que j'ai dit à l'instant qu'on avait trouvé, c'est avec Renaud, là, qu'on avait trouvé que sur les 5 dernières années, il y avait un contenu critique plus important qu'éventuellement auquel on avait pu s'attendre suite, notamment avec les discussions avec Luc. En fait, je dirais que il faut dire aussi qu'on a, dans une certaine mesure, on a été gentil. C'est parce qu'on a intégré, alors, l'article le met en évidence, évidemment. On a intégré les articles qui sont vraiment en orientation critique, c'est clair, mais on a aussi intégré des articles qui, par exemple, vont être essentiellement d'ordre descriptif et qui, à la fin, vont avoir dans la conclusion, je pense. Voilà, il va y avoir à la fin, dans la conclusion, des éléments. Alors, on intègre quand la critique est principale dans l'article et quand la critique est secondaire. Et c'est quand on additionne les articles qu'on a définis comme étant critique principale et critique secondaire. Mais il y a tout un travail aussi qu'on a fait sur ce que c'est que la critique principale et la critique secondaire. C'est en fait en faisant cette agrégation discutable d'ailleurs que l'on trouve que finalement il y en a plus qu'elle en s'attendait. Je dirais qu'en fait un paradigme, c'est pour résumer la situation, un paradigme c'est une paire de lunettes qu'on choisit pour avoir une vision du monde. Une idéologie, c'est exactement la même chose, ou à peu près. La différence, c'est qu'un paradigme va être plutôt développé au sein d'une institution, qui est celle, en fait, le champ de la recherche, d'un côté, alors que l'idéologie ne va pas être développée essentiellement et va être produite aussi en dehors du monde de la recherche. Voilà. Mais il y a une proximité extrêmement grande. C'est plutôt qui est à l'origine, qui sont les producteurs des paradigmes et les producteurs idéologiques. On produit à la fois, de mon point de vue, on produit à la fois du paradigme et de l'idéologie, mais les chercheurs se cantonnent généralement plutôt à produire du paradigme. Alors que l'idéologie, là je rejoindrai Gramsci également, de ce point de vue-là, idéologie et hégémonie. C'est sur le lieu de la production qui me semble un peu différent. Notamment, et le fait que le paradigme, la notion de paradigme renvoie normalement à des préoccupations d'ordre scientifique. Oui.
Voilà, merci beaucoup. M'envoyez pas trop d'avoir.